RFI 6h30 à Douala, 5h30 à Accra.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À Goma, mouvement citoyen et société civile demandent la démission de Félix Tshisekedi.
Qu'il juge responsable de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État accusé de vouloir brader les minerais du pays. Ils appellent à soutenir les églises catholiques et protestantes qui auraient, elles, l'amour du pays. Des dizaines de meetings à travers tout le Cameroun. Hier, le RDPC au pouvoir fêtait son 40e anniversaire. Un mot d'ordre lors de ces rassemblements. Le soutien total à Paul Biya, ses partisans l'appellent unanimement à se représenter. On dira un mot du Sénégal et de cette visite d'une délégation du FMI, l'institution qui confirme le rapport de la Cour des comptes sur les dépenses publiques et qui assure qu'une partie de la dette a été cachée pendant 5 ans. On parle de 7 milliards de dollars. Enfin, les inquiétudes de l'ONU-SIDA quant aux coupes budgétaires américaines dans l'aide internationale. Sa chef s'attend à des millions de morts supplémentaires et appelle Donald Trump à revenir sur sa décision. Le président congolais Félix Tshisekedi, dans le collimateur commun de mouvements citoyens et de membres de la société civile actifs à Goma, capitale du Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce lundi, ils estiment que les situations politiques, sécuritaires et économiques actuelles dans l'est de la RDC sont essentiellement liées à la mauvaise gestion du pays. Selon eux, le chef de l'État a une priorité, celle de ses propres intérêts. Ils appellent ainsi à sa démission et à un soutien aux églises catholiques et protestantes, deux acteurs fiables pour résoudre la crise. Je vous propose d'écouter un extrait de ce communiqué lu par Lumumba Kambere.
Au président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, de ne pas accepter de continuer avec les processus qui consistent à aller vers les accords sur les minerais de la RDC. Pourquoi? Parce que Monsieur Félix Tshisekedi veut brader les minerais de la RDC. Et ce n'est pas pour le développement de la RDC, mais au contraire, c'est pour chercher les béquilles pour ce pouvoir. Et nous ne voulons pas que des grands pays puissent donner des béquilles à ces pouvoirs dictateurs. Monsieur Félix Tshisekedi a chassé beaucoup d'opposants. Mais le pays est à genoux sur tous les points. 2016, souvenez-vous bien, mais l'Église catholique s'est impliquée pour que nous puissions arriver aux élections apaisées de 2018. Et aujourd'hui, les évêques de l'église catholique et ceux de l'église protestante, ils se sont impliqués. Ils ont l'amour du pays. La Sengo, c'est la clé pour trouver la solution à tout ce que nous sommes en train de traverser. Et la Sengo, jusqu'à aujourd'hui, est la structure la plus nette en République démocratique du Congo.
Et c'est dans ce contexte toujours de très forte tension que les consultations en vue de la formation d'un gouvernement national ont débuté hier. Gouvernement d'union nationale, la majorité au pouvoir était la première à être entendue. Un processus très largement boycotté par les principaux partis d'opposition. Et puis, ses organisateurs avaient un temps annoncé son report. Le concert Solidarité Congo, prévu le 7 avril à Paris, est finalement maintenu. Le choix de la date avait fait polémique, puisque c'est la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pour les organisateurs, la date est tout, sauf un choix politique. La participation de Gims, accusé d'avoir tenu des propos qui appellent à la haine, avait également fait réagir parmi ceux qui s'opposent à l'organisation de ce concert. L'association des Rwandais de France appelle la préfecture de Paris à interdire l'événement et le qualifie de concert de la honte. J'ajoute qu'après plus de 2 ans de médiation entre Kinshasa et Kigali, l'Angola a décidé de mettre fin à son rôle. Annonce officielle de la présidence ce lundi. 2 mois après avoir pris la tête de l'Union africaine, le chef de l'État, João Lourenço, estime qu'il est temps de se recentrer sur les priorités du continent, à savoir la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les afro-descendants. Un réseau de trafic d'êtres humains démantelé il y a une petite semaine au Cameroun. 2 de ses membres ont été interpellés. Désormais, les enquêtes se poursuivent à la recherche d'autres ravisseurs. Au total, 13 victimes étrangères étaient retenues depuis au moins 5 mois dans le quartier Nkomo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Et parmi les victimes, Richard Onanena, des Malgaches et des Congolais.
Elles ont été appâtées sur les réseaux sociaux par des Camerounais leur promettant un emploi bien rémunéré à Yaoundé. Sur place, les 13 victimes ont été séquestrées et maltraitées pendant 5 mois à l'insu du voisinage. J'en serai un au Kala, chef du quartier.
Ils sont venus comme de simples locataires. C'est 2 personnes qui sont présentées comme des locataires. Et c'est une personne qui faisait des courses. On n'a pas beaucoup prêté attention à ça. Ce que j'ai vu la nuit, j'étais vraiment très surpris.
Une opération de la gendarmerie camerounaise au 19 mars a permis de libérer les victimes, 7 malgaches et 6 congolais de la RDC. Deux trafiquants ont été arrêtés. Le lieutenant-colonel Georges Parfait Nana, chef du commandement opérationnel de la gendarmerie nationale.
Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle.
Alors que les victimes restent sous observation, l'enquête se poursuit pour retrouver d'autres suspects impliqués. Dans un communiqué publié lundi, le ministère malgache des Affaires étrangères appelle à la vigilance face aux emplois à l'étranger après plusieurs cas de malgaches piégés au Cameroun par ce réseau de trafic des êtres humains. Richard Odanena, Yaoundé. RFI.
Le Cameroun où le parti au pouvoir RDP s'est soufflé hier ses 40 bougies. Le parti de Paul Biya est né un 24 mars, c'était en 1985. Et à l'occasion de cet anniversaire, des dizaines de meetings ont été organisés sur l'ensemble du territoire, des rassemblements qui avaient pour principal objectif d'appeler et donc de soutenir la candidature du président sortant Paul Biya à l'aube de la présidentielle prévue en octobre prochain. Paul Biya qui a déjà passé 43 ans à la tête du pays. Correspondance à Mokolo, l'un des fiefs du RDPC dans le nord du pays où s'est rendu pour RFI Polycarpe Samba.
C'est à l'esplanade de la maison du parti de Mokolo dans le département du Mayotte-Sanaga que les militants et sympathisants du RDPC se sont donné rendez-vous pour renouveler leur attachement au parti et à son chef, le président Paul Biya. Le choix de la section RDPC de Mokolo n'était pas anodin. Son président, qui est en même temps maire de la ville, a rappelé opportunément le poids politique de cette section présentée comme l'une des plus importantes du pays en termes de poids électoral, avec une niche de plus de 80 000 électeurs. Il a aussi rappelé qu'historiquement, le département est acquis au RDPC, dont il est l'un des bastions. En plein meeting, l'assistance a été surprise par la présentation d'une centaine de personnes annoncées comme des militants de diverses formations politiques de l'opposition dont ils arboraient par ailleurs les tenues. Nous sommes venus rejoindre et grossir les rangs du RDPC dans le département, ont-ils déclaré sous les applaudissements nourris de leurs désormais camarades. Séance tenante, les nouveaux militants seront revêtus des couleurs du RDPC à la grande satisfaction du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, principal orateur pendant ce meeting. Les militants du RDPC se sont séparés avec une motion de soutien et un nouvel appel à Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Polycarpe Samba à Mokolo par Marwa, RFI.
Quelques nouvelles ce mardi d'Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également l'un des correspondants de RFI au Tchad. Il avait été arrêté il y a une vingtaine de jours avant d'être inculpé, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Pour certains de ses articles parus dans Le Pays, eh bien hier il a été entendu par un juge d'instruction à N'Djamena, une audition qui a duré environ une heure et demie et au cours de laquelle il a été interrogé sur le dossier transmis par le parquet. Maître Alain Ndiliam est l'un des avocats d'Olivier Monodji. Il se dit confiant.
Nous, à la fin de cette audition, nous sommes rassurés, une fois de plus encore, de son innocence, que nous avons déjà cru dès le départ. Et nous sommes aussi rassurés par rapport au dossier qu'on a vu et par rapport à ce qu'on lui a reproché. Et nous sommes également rassurés de l'attitude du juge d'instruction qui nous a véritablement prouvé qu'il est en train d'instruire à charge et à décharge. Et nous sommes confiants qu'il dira le droit et nous sommes confiants que le droit serait du côté de Monodji Olivier.
Maître Alain Ndiliam avec Lisa Fabian. Au Soudan, une frappe des paramilitaires sur une mosquée de Khartoum a fait 5 morts et des dizaines de blessés dimanche soir. Une attaque répertoriée par un collectif d'avocats pro-démocratie. C'est la deuxième offensive des forces de soutien rapide depuis la reprise de la capitale par l'armée régulière du général Al-Burhan. C'était la semaine dernière. Le même jour, dimanche, la ville d'Omdurman, de l'autre côté du fleuve en face de Khartoum, a également été bombardée par les hommes du général Emmeti. Au Sénégal, je vous le disais en titre, une délégation du Fonds monétaire international confirme, je cite, qu'une partie de la dette a été cachée entre 2019 et 2024. Il y a une décision très consciente de sous-estimer la dette, nous dit ce matin Edouard Gemayel, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, à hauteur de 7 milliards de dollars. On y revient très largement dans nos éditions ce mardi matin. Edouard Gemayel sera notre invité au micro de Léa Lisa Vesterhoff à Dakar. Entretien à retrouver juste après ce journal. On vous en parle régulièrement sur les antennes de RFI. C'est l'une des grandes décisions prises par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Les coupes budgétaires dans l'aide internationale de Washington. Elles inquiètent un peu partout sur la planète, jusqu'aux Nations Unies, où l'ONU-SIDA notamment craint le retour d'une pandémie. Hier, la directrice exécutive Winnie Byanyima, depuis Genève, a tiré la sonnette d'alarme. Elle met en garde contre une recrudescence massive de la maladie, notamment chez les jeunes filles africaines, et appelle l'administration Trump à revenir sur sa décision. La porte, dit-elle, est grande ouverte à des millions de morts supplémentaires.
Si l'aide américaine contre le VIH n'est pas rétablie après la pause en avril et qu'aucun autre financement ne vient combler ce vide, et jusqu'ici, aucun gouvernement ne s'est engagé, alors dans les quatre prochaines années, 6,3 millions de personnes pourraient mourir du sida. En 2023, on comptait déjà 600 000 décès. Ce chiffre pourrait être multiplié par 10. On prévoit également 8,7 millions de nouvelles infections supplémentaires. Cela signifie perdre tout le progrès réalisé au cours des 25 dernières années. Et à plus long terme, la pandémie de sida pourrait revenir en force, non seulement dans les pays à faible revenu en Afrique, mais aussi dans des régions comme l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Nous allons assister à une véritable recrudescence de cette maladie, telle qu'on l'a connue dans les années 90 et 2000, avec des gens qui mouraient faute de traitement.
Les propos de Winnie Byanyima, la chef de l'ONU SIDA, recueillie par Christina Okello. Et puis les États-Unis, décidément au cœur de nombreuses préoccupations. En Afrique du Sud, cette fois, à quelques mois maintenant de l'organisation du sommet du G20, différentes réunions de travail sont organisées. Exemple hier avec le département des relations internationales et l'Institut sud-africain des affaires internationales qui ont co-organisé un séminaire sur l'avenir de la diplomatie du pays, au programme des discussions sur la situation en RDC, celle au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine, et donc des questions liées aux États-Unis, alors que la tension est maximale entre Washington et Pretoria et que l'ambassadeur sud-africain considéré persona non grata vient de rentrer au pays. RFI Johannesburg, Valentin Hugues.
Un séminaire avec trois chercheurs invités à débattre de la politique étrangère sud-africaine. Faith Mabera de l'université de Wits a rappelé la situation particulière de l'Afrique du Sud, dirigée par un gouvernement de coalition qui rassemble donc des partis politiques aux avis divergents.
Depuis la fin de l'apartheid, c'est principalement l'ANC qui a dicté la politique étrangère de l'Afrique du Sud. Avec ce gouvernement de coalition, l'Afrique du Sud se trouve en terrain inconnu. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud doit repenser sa politique étrangère pour exercer une activité diplomatique cohérente.
L'importance de réfléchir à long terme est souvent revenue lors des échanges. Selon le professeur Anthony Van Neuvecker, l'Afrique du Sud ne doit pas repenser sa diplomatie en fonction des décisions de la Maison-Blanche.
J'ai donc fait cette proposition en m'adressant au vice-ministre. Le moment est venu de réunir non seulement des universitaires ou des analystes, mais aussi des représentants du monde des affaires et de la société civile, d'examiner et d'identifier les options qui s'offrent au pays pour les 5, 10 et 15 prochaines années, et de demander en ensuite aux responsables politiques de choisir la meilleure option avec sagesse.
Une direction que semble prendre l'Afrique du Sud. Le département des affaires étrangères doit bientôt annoncer la création d'un conseil sur les relations internationales. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.